VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition de 18h30 universel du mardi 17 avril 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington, voici les titres. Inquiétude à Bangui après des informations faisant état d'un regroupement des ex-Séléka dans le centre du pays.
Noureddine Adam, Ali Daras, Abdoulaye Hissen et leurs acolytes positionnent des matériels de guerre à partir de Kagabandoro vers la direction de Bangui.
Human Rights Watch accuse le régime burundais de répression à l'approche du référendum constitutionnel. Manifestation au Nigeria des partisans d'un dirigeant religieux chiite emprisonné depuis 2 ans. Sorti ce mardi du livre de l'ex-patron du FBI, James Comey, très critique à l'égard du président Trump. Suivez les explications de notre analyste en Parti Magazine. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en République centrafricaine. Le regroupement des ex-Séléka dans la ville de Kagabandoro, au centre nord du pays, inquiète à Bangui. Alors que la MINUSCA appelle au calme, les anti-Balaka dénoncent une attitude irresponsable susceptible de compromettre la paix. Sur place à Bangui, retrouvons Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique.
Une trentaine de 4x4 Land Cruiser équipés de l'armement lourd et des centaines de motos transportant 3 à 4 combattants ont déjà fait leur entrée dans le centre de Kagabandoro. Un rassemblement d'ex-Séléka débuté samedi dernier et qui se poursuit. On ignore encore la raison de cette forte mobilisation, mais selon des indiscrétions, ces hommes armés auraient l'intention de faire pression sur le pouvoir de Bangui en menaçant de marcher sur la capitale ou encore de partitionner le pays. Information non encore confirmée par les responsables de ces mouvements armés, jusque-là injoignables. À Bangui, la MINUSCA appelle au calme, rassurant que ce rassemblement ne constitue pas encore une menace. De leur côté, les anti-Balaka haussent le ton. Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Bangui, leur coordination dénonce une attitude irresponsable. Sébastien Wenizui, coordonnateur.
Trouvant comme prétexte inutile de la situation de PK5, Noureddine Adam, Ali Daras, Abdoulaye Hissen et leur acolyte position des matériels de guerre à partir de Kagabandoro vers la direction de Bangui. Cette attitude gauche et irresponsable tend à mettre en péril non seulement tous les efforts de la paix et réconciliation appuyés par la communauté internationale depuis la crise de 2013 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi à déclarer la guerre au peuple centrafricain tout entier sans distinction aucune.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, dans un rapport publié ce mardi, Human Rights Watch dénonce la répression à l'approche du référendum sur le mandat présidentiel, accusant le gouvernement d'emprisonner et de tuer des opposants. Le point avec John Lyndon.
Selon l'organisation, les forces gouvernementales du Burundi ainsi que des membres du parti au pouvoir ont tué, passé à tabac ou intimidé des citoyens perçus comme étant des opposants à un référendum constitutionnel prévu pour le 17 mai 2018 et qui permettrait au président de rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat actuel. Il n'y a guère de doute que le référendum qui s'annonce sera accompagné de nouveaux abus, a déclaré Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Elle note également que des responsables burundais et les Imbonerakure commettent des violences avec une impunité quasi totale afin de permettre à Nkurunziza de renforcer son emprise sur le pouvoir. L'annonce en avril 2015 de la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat controversé avait marqué le début d'une crise politique qui a fait au moins 1 200 morts et plus de 400 000 déplacés, selon les sources, notamment l'ONU et des ONG. La CPI a ouvert une enquête sur ces violences, principalement attribuées aux forces de sécurité et aux Imbonerakure.
5 ONG congolaises, en député et Greenpeace, ont décidé de saisir la justice et le Parlement de la RDC pour obtenir l'annulation de la réattribution de concessions forestières à des sociétés chinoises dans des zones tourbières. En mars, le ministre de l'Environnement congolais, Ami Amba Tobé, a procédé à la délivrance d'au moins 2 permis de coupe industrielle pour l'année 2018 aux opérateurs chinois qui ont vu le titre illégaux. Nos titres illégaux ont été réintégrés en février. C'est en tout cas ce que dénonce un communiqué de ces ONG congolaises et Greenpeace. Au Nigeria, des heurts ont opposé pour la deuxième journée consécutive les forces de police nigérianes à des manifestants à Abuja. Les protestataires réclament la libération d'Ibrahim Zakzaki, un leader religieux chiite pro-iranien en détention depuis 2 ans. Morgan Guerriek.
Ibrahim Zakzaki est toujours en détention, malgré la décision de justice ordonnant sa libération. Leader de l'Islamic Movement of Nigeria, il avait été arrêté en décembre 2015 après des affrontements meurtriers entre ses partisans et l'armée à Zaria, dans le nord du pays. La police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène pour le deuxième jour de suite et procédé à plusieurs interpellations dans la capitale fédérale du Nigeria. Lundi, des heurts avaient déjà éclaté avec la police, qui a annoncé avoir arrêté au moins 115 partisans du mouvement chiite après plusieurs jours de manifestations à Abuja pour réclamer la libération de leur leader. La police affirme que 22 policiers ont été blessés par les manifestants armés de barres de fer et de pierres qui ont, d'après elle, perturbé l'activité et la circulation et détruit des véhicules de la police et du gouvernement. Une trentaine de manifestants ont également été blessés lundi, dont un grièvement, a affirmé à l'AFP le porte-parole de l'Islamic Movement of Nigeria, Ibrahim Moussa.
Au Sénégal, Barthélémy Diaz, maire d'une commune de la capitale, a écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme pour outrage à un magistrat. Barthélémy Diaz, un dissident de la majorité présidentielle et ancien député socialiste, est un proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, lui-même condamné le 30 mars dernier à 5 ans de prison. Et puis, quelques 28 000 personnes, majoritairement des migrants nigériens illégaux, ont été rapatriés d'Algérie vers le Niger depuis 2014, ce qu'a indiqué ce mardi l'ONU. Près de 22 000 des migrants refoulés sont issus de la région nigérienne de Zender, dans le centre-sud, et plus de 3 000 autres sont des ressortissants d'Agadez, dans le nord, selon OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe entame aujourd'hui aux États-Unis 2 jours de discussion avec le président américain Donald Trump, qui seront dominés par la question de l'armement nucléaire nord-coréen. Jacques Aristide.
Rencontre bilatérale, dîner avec épouse, conférence de presse commune, le président américain et le premier ministre japonais se retrouvent, comme l'an dernier, dans la luxueuse villa de Mar-a-Lago. Donald Trump a forgé des liens étroits avec Shinzo Abe depuis son entrée en fonction en janvier 2017. Les deux hommes, grands amateurs de golf, le président Trump, était à Tokyo en novembre dernier. Shinzo Abe dit vouloir réaffirmer la coopération américano-japonaise sur la Corée du Nord avant le sommet prévu fin mai ou début juin entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans un lieu qui reste à déterminer. Le Japon ne veut pas d'un accord par lequel Pyongyang abandonnerait ses seuls missiles balistiques de longue portée capables d'atteindre les États-Unis, mais maintiendrait ses missiles de courte portée qui menacent le Japon. Les questions des relations avec la Chine et du commerce en général seront également abordées lors de ce sommet.
En Syrie, une équipe de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques est arrivée ce mardi dans la ville de Douma, d'après l'agence de presse officielle syrienne Sana. Ils doivent y enquêter sur une attaque chimique présumée. Yacouba Ouedraogo.
Les experts de l'OIAC ont débuté leur mission en Syrie dimanche. Ils se sont entretenus avec des officiels syriens, mais n'avaient pas encore pu, jusqu'alors, entrer à Douma. Ils y sont maintenant, soit 10 jours après l'attaque chimique présumée. La Russie et la Syrie avaient invoqué des problèmes de sécurité. La France les soupçonne d'avoir fait disparaître des preuves et des éléments essentiels. Le Royaume-Uni a quant à lui exhorté l'OIAC à demander des comptes aux auteurs de l'attaque. Cependant, les inspecteurs ont pour mandat d'enquêter sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques, mais pas d'en identifier les auteurs. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani appellent à poursuivre les efforts communs de la Turquie, l'Iran et la Russie pour protéger l'intégrité territoriale de la Syrie et trouver une solution politique durable à la crise. Plus de 40 personnes auraient péri sous l'effet des gaz toxiques le 7 avril, au moment où la ville était encore aux mains des rebelles. En représailles, le 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui ont accusé le régime de Bachar al-Assad, ont mené des frappes en Syrie. Damas et Moscou ont démenti toute implication, accusant les rebelles de mise en scène.
Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Yémen se fixe un délai de 2 mois pour mettre en place un cadre de négociation devant aboutir à la fin du conflit. Lors de sa première présentation de la situation au Yémen devant le Conseil de sécurité, Martin Griffiths a aussi mis en garde contre une action imminente dans le port d'Odeira aux mains des rebelles yéménites. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manelakiza.
D'après le FMI, l'économie mondiale va croître à un rythme soutenu cette année et l'an prochain. Les États-Unis et l'Europe vont notamment porter cette croissance. Le FMI note en outre la performance solide du Japon, de la Chine et l'Inde, qui vont aussi contribuer au dynamisme mondial. Les pays exportateurs de matières premières doivent diversifier leur économie pour accroître leur expansion et leur capacité de résistance en cas de crise. Toutefois, l'effet des tensions commerciales risque de compromettre les prévisions annoncées. Enfin, les risques géopolitiques ne devraient pas non plus être sous-estimés. Ici aux États-Unis, les réductions d'impôts permettront une nette accélération de la croissance en 2018. Cependant, le FMI projette un tassement du rythme d'expansion après 2020. Le Mali a mobilisé plus de 149 milliards de francs CFA de recettes douanières en hausse de 4%. Ces recettes sont légèrement inférieures de plus de 7 milliards de francs CFA. La Banque des États de l'Afrique centrale a réalisé un bénéfice net de plus de 77 milliards de francs CFA. Néanmoins, cette marge accuse une baisse de plus de 53%. En 2016, le bénéfice était de plus de 164 milliards de francs CFA. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa souhaite attirer 8 milliards de dollars d'investissements dans le pays. La mission de mobilisation de ces investissements sera confiée à une équipe d'économistes et de cadres, dont les anciens ministres des Finances Trevor Manuel, Pravin Gordhan et l'ancien directeur de la Standard Bank, Jaco Mare.
À présent, la page des sports avec vous, Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Tour de cadrage, retour de la Coupe CAF.
Et la belle qualification de l'AS Vita Club qui est allé battre à Pointe-Noire la Mancha, le club de Kinshasa qui l'emporte 5-1. Match nul 0-0 en Algérie entre Belouizdad et l'ASEC Mimosa. Un résultat qui qualifie les Ivoiriens après leur victoire 1-0 à l'aller à Abidjan. Et dans les autres rencontres, l'USM Alger contre le Plateau United et Al Masry d'Égypte contre le CF Mounana.
Bertrand Marchand jette l'éponge avec le club africain.
Oui, l'entraîneur français de 64 ans s'est séparé à l'amiable du club africain, club de première division tunisienne. Et ce, 5 mois seulement après son recrutement. Aucun détail n'a été donné sur les raisons de cette séparation ou le futur de l'entraîneur du club africain. Mais le club algérois de l'USM Alger a indiqué être intéressé par le technicien français. On rappelle que Bertrand Marchand était revenu au club africain en décembre 2017 pour une période de 6 mois. Il avait remporté la Ligue des champions africaines avec un autre club tunisien, l'Étoile sportive du Sahel, en 2007. En 2010, il était le sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie.
Benzema, sans illusion pour la Coupe du Monde.
Et oui, Karim Benzema, dans une interview publiée par le mensuel Vanity Fair, assure qu'il ne fera plus rien pour convaincre Didier Deschamps de le reconvoquer en équipe de France. Et ce, à moins d'un mois de l'annonce de la liste des 23 pour la Coupe du Monde. La dernière apparition de Benzema sous le maillot des Bleus remonte au 8 octobre 2015 en match amical contre l'Arménie.
En Italie, l'Inter Milan espère se relancer.
L'Inter Milan qui marque le pas en Serie A se doit de l'emporter ce soir à San Siro en ouverture de la 33e journée face à Cagliari, pour ne pas décrocher, s'éloigner du top 4, synonyme de qualification pour la phase de poule en Ligue des Champions.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et 2-2 pour Golden State, emmené par Kevin Durant et Klay Thompson. Les Warriors, tenant du titre, ont donné une leçon d'adresse aux Spurs de San Antonio. Victoire 116-101. Les Warriors qui mènent 2-0 dans cette série. À l'Est, Dwayne Wade a produit une prestation des grands soirs pour permettre à Miami de s'imposer face à Philadelphie 113-103 et égaliser ainsi à une victoire partout dans cette série.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahman Diar, en votre compagnie. On passe au dossier du jour, ici aux États-Unis. L'actualité, c'est la sortie officielle du livre « A Higher Loyalty » de l'ancien directeur du FBI, James Comey. Le livre très critique envers le président Donald Trump a déjà suscité la polémique et la réaction virulente du locataire de la Maison-Blanche. Pour analyse, Irénée Hermanoumbo a joint le professeur de sciences politiques et économiques à l'université de Princeton, Leonard Wanchekon.
Connaissant la personnalité de Jim Comey, la façon dont il a géré le dossier Clinton, son influence donc sur les élections de 2016, la façon dont il a été mis à la porte là, on s'attendait à ce que quelque chose de ce genre-là se passe.
Donc est-ce pour lui l'occasion pour se venger ou bien c'est une restitution de sa part de vérité dans son implication, notamment peut-être dans les questions liées à une éventuelle implication de la Russie dans les élections américaines?
Je pense que les deux, hein. Bon, plus la restitution que la vengeance, parce que il y a pratiquement rien qui l'ait dit qui soit terriblement surprenant. Donc tous les éléments dans le livre, bon, des choses qu'on savait déjà plus ou moins, maintenant il n'a fait que les confirmer. Maintenant, de ce point de vue, il donne un peu plus de crédibilité donc à l'enquête sur la collusion entre la campagne de Trump et puis la Russie. Il a choisi le bon moment parce que bon, faut dire que le président est actuellement dans une situation très précaire et les gens se posent beaucoup de questions. Donc, elle est là en train d'apporter, disons, sa part de vérité, quoi.
Mais est-ce que, justement, les révélations ne mettraient-elles pas en cause l'enquête de Robert Mueller?
Pas du tout, parce que, en fait, je pense même bien le contraire. Parce que ce qui se fait, c'est que il y a déjà une campagne de la part des, disons, des alliés de Trump pour délégitimer, disons, Mueller et montrer que, bon, c'est une chasse aux sorcières, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, etc. Alors, le fait qu'il y ait une autre voix qui confirme donc les soupçons très forts donc qu'il a actuellement donne encore un peu plus de légitimité et de crédibilité, je veux dire, donc aux enquêtes de Mueller.
À quoi peut-on s'attendre, à votre avis, dans les tout prochains jours, au regard du contenu de cet ouvrage qui sort aujourd'hui, il faut le rappeler?
Non, pas grand-chose, hein. Je pense que ce qui va se passer, c'est que, bon, il y aura les alliés de Trump qui vont continuer à se défendre bec et ongles et à essayer de décrédibiliser sa version des faits. Mais malheureusement, c'est que en dehors donc du livre, il y a d'autres scandales sexuels, scandales de corruption, d'achat, donc du silence, tout ça qui aujourd'hui tourne autour du président et de son lawyer Michael Cohen. Donc tout ça rend difficile l'effort que les républicains et Trump font donc pour pouvoir décrédibiliser et minimiser donc l'impact de ce livre.
C'était Leonard Wanchekon de Princeton University. Au Sénégal, les cours dans les établissements scolaires publics sont perturbés depuis plusieurs mois par les grèves des enseignants. Ils réclament une amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Malgré la promesse du président d'augmenter le montant de l'indemnité de logement, les enseignants grévistes poursuivent leur mouvement. Reportage à Dakar, Seydina Bagay.
Les parents d'élèves ne s'en cachent plus. La situation de l'école publique est de plus en plus inquiétante et les enfants en sont les principales victimes. La Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal fait part de son impuissance à travers la voix de son secrétaire général, Dame Sek.
C'est une situation d'inquiétude et de désarroi total hein, que nous sommes en train de vivre. D'abord, et d'insécurité aussi pour nos enfants qui, après les débrayages, doivent rentrer tout seuls quelquefois ou traîner dans la rue. Et c'est une situation vraiment catastrophique hein, que nous déplorons beaucoup. Nous avons tenté beaucoup de choses pour asseoir un climat apaisé au sein de l'espace scolaire et universitaire, mais les enseignants persistent.
Le principal point d'achoppement des négociations demeure l'indemnité de logement allouée aux enseignants. Ces derniers la jugent trop faible par rapport aux autres corps de la fonction publique. Au-delà de cette revendication, les syndicalistes exigent le respect des accords signés en 2014, comme l'indique Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, le syndicat majoritaire dans l'enseignement.
Nous avions accepté de rediscuter tout Et de 2012 à 2014, nous étions dans les discussions. Ce n'est qu'à l'issue de ces discussions que le gouvernement reconnaît lui-même, et ils l'ont dit clairement, qu'il venait de signer maintenant des accords réalistes et réalisables. C'était en 2014, plus précisément le 14 février. De 2014 à 2018, soit 4 ans après, mais rien de concret n'a été fait par rapport à nos préoccupations.
Les enseignants disent ne plus se fier aux promesses de l'État. Ils veulent des actes concrets avant de lever leur mot d'ordre de grève. Pour rétablir un climat de confiance et sauver l'école publique sénégalaise d'un naufrage, le gouvernement doit respecter ses engagements, comme l'affirme Cheikh Mbow, coordonnateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique.
La crise actuelle est fondée sur la base de non-respect des accords qui étaient pourtant qualifiés de réalistes et réalisables par le gouvernement. Et sur le principe, nous continuons à penser que c'est au gouvernement de respecter les accords qu'il signe avec les parties prenantes en apprenant du passé qu'il y a un problème d'équité qui est posé dans le traitement des fonctionnaires de manière générale. Donc il faudrait que l'on puisse régler cette question d'équité de manière courageuse en discutant de façon participative sur les conclusions et les recommandations du rapport sur le système de rémunération.
Au-delà du respect des accords, le système éducatif sénégalais doit faire sa mue pour retrouver le niveau qui est le sien. Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale et syndicaliste depuis 42 ans, juge qu'il faudrait des efforts de part et d'autre pour que la situation redevienne normale.
Le quantum horaire de 900 heures annuelles n'a jamais été atteint. Il varie toujours entre 500 et 600 heures par an. Donc on peut dire que l'enjeu principal pour le système éducatif sénégalais, c'est la qualité. Il faut que l'État s'engage et respecte bien sûr ses engagements et que le syndicalisme enseignant dans l'espace francophone, au Sénégal particulièrement, qui est très divisé, eh bien il faut que ce syndicalisme fasse un peu un regard vers le syndicalisme de système anglophone où les syndicats sont unitaires et qui en fait ne sont pas grévistes.
Les crises structurelles de l'école publique sénégalaise semblent atteindre un point de non-retour. Malgré plusieurs tentatives d'apaisement du système éducatif, la situation est plus que jamais tendue. Les enseignants exigent une revalorisation de leurs conditions socio-professionnelles et le respect des engagements pris par l'État du Sénégal en 2014. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Aujourd'hui, c'est le 17 avril et cela marque les 10 ans de la disparition d'Aimé Césaire. Politicien, poète et dramaturge, le Martiniquais était l'un des fondateurs du mouvement de la négritude dans la littérature francophone. Mort à l'âge de 95 ans, cet anticolonialiste se réclamait de la race de ce qu'on opprime, selon ses propres termes. Le docteur Jean Ouedraogo, chef du département des études francophones à l'université Holy Cross dans le Massachusetts, nous en dit plus au micro d'Arzuma Compaoré.
Aimé Césaire, comme vous l'avez si bien dit, c'est une personnalité connue du monde littéraire. C'est une personnalité à la fois politique, littéraire. C'est une figure de combattant, c'est une figure donc de résistant. C'est quelqu'un qui porte aussi avec d'autres personnalités telles Senghor ou Léon Gontran Damas, la paternité donc de ce mouvement si important, si fondateur également qu'est la négritude. Aimé Césaire définira par une série de négations qui retournent un peu contre l'Occident, ces préjugés qu'il faudrait dire racistes donc à l'égard du noir et qui retournent de par sa verbe poétique ces attributs qui sont censés déshumaniser l'homme noir et qui est donc transformé en arme de combat, comme l'intitulé également d'un autre recueil de poésie qui s'appelle donc Les armes miraculeuses. Donc c'est cette personnalité-là qui est toujours présente même dans son absence physique. Il est présent dans les écrits, il est présent dans les chansons. Il n'y a qu'à voir des Gaël Faye, Kassav, parlant donc de génération consciente, ainsi de suite.
Justement, quel est l'héritage aujourd'hui d'Aimé Césaire, surtout pour l'Afrique?
Pour l'Afrique et pour peut-être ce qu'il faudrait appeler la francophonie, Césaire reste une figure marquante, en ce sens qu'on peut ne pas adhérer à la vision littéraire, à la vision esthétique donc de la négritude, on peut s'en départir, on peut même s'en offusquer, mais c'est une base à partir de laquelle d'autres expressions littéraires, artistiques, que ce soit les tenants de la créolité, de l'antillanité, cette négritude-là reste fondamentale.
Est-ce qu'il y a un nouveau Césaire?
Est-ce qu'il y a un nouveau Césaire? Difficile à dire, il faut dire qu'il y a des aspirants Césaire, des gens nourris de la poésie de Césaire, qui ont leurs propres identités. Je pense que ce que l'homme nous laisse, c'est un terreau à partir duquel donc peut pousser d'autres formulations, non seulement des questions identitaires, mais également d'autres formulations qui peuvent se départir de cette vision originale ou originelle donc se créer un chemin, une voie, une nouvelle voie qui porte aussi. Et on peut peut-être même être Aimé Césaire sans être fondamentalement noir.
C'était le professeur Jean Ouedraogo de Holy Cross University ici aux États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nous partons à la rencontre d'un jeune talent, il s'appelle Ryan, et sa particularité est qu'il est le plus jeune slammer connu en République centrafricaine. Âgé de 12 ans seulement, passionné par l'écriture, les rimes et les rythmes, ses textes sont plutôt engagés et nous dépeignent les difficultés que traverse son pays, la RCA. C'est un reportage de Pascal Gabriela Serra.
Être sur scène n'a plus de secret pour Ryan, le plus jeune slammer centrafricain âgé de 12 ans. Ses textes, il les choisit avec parcimonie en scrutant chaque détail de l'actualité centrafricaine.
Si je me tiens devant vous aujourd'hui, je n'ai peur pour faire le malin. Être gamin n'est pas une raison pour vous de nous prendre pour des gamins.
Le slam, c'est l'art de la vérité, l'art de la liberté. Il permet de dire haut ce que l'homme pense bas. Mes textes parlent sur la jeunesse, l'enfant soldat, l'enfant africain, l'enfant de la rue aussi.
Comme dit l'adage, tel père, tel fils, Ryan suit les traces de son père, lui aussi slammeur, primé 4 fois lors des concours nationaux. Son plus grand fan, son fils, l'assistait lors de ses prouesses et s'imaginait déjà sur scène comme son père. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'il prépare les sessions et peaufine les écrits à domicile tous les week-ends.
Pour écrire un texte avec Ryan, deux fois, c'est les questions. C'est les questions qu'il me pose. C'est un petit curieux. Lui-là, c'est un petit curieux. Il pose trop de questions. Deux fois, il m'agace avec ses questions. Et surtout quand on suit la télé. Et encore pire quand c'est les infos, quoi. Vous savez ce qu'on nous passe maintenant dans les infos à la télé. Du coup, c'est des interrogations. Il me dit, mais papa, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi ça, ça, ça? Pour le répondre deux fois, je n'arrive pas. Je suis en train de passer le flambeau à la nouvelle génération, quoi. Y compris à mon garçon qui est là. J'espère que, comme on dit souvent chez nous, chacun a son étoile, que peut-être lui va poursuivre ce que j'avais. Et comme on sait que je n'ai pas achevé.
Les textes choisis se veulent des messages adressés aux autorités centrafricaines afin d'attirer l'attention sur le sort des enfants grandissant dans un pays en crise. Ryan veut croire que son art pourrait contribuer à faire un peu changer les choses pour sa génération ainsi que pour toute la population centrafricaine.
C'était un reportage de Pascal Gabriel Serra qui met fin à cette édition, mise en onde par Georges Léonard Sagnot, à la console Bill Barber, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.